joie que j'ai répondu à votre invitation pour ces journées. Je me suis tenu devant le Seigneur pour lui demander de quel sujet je devais vous parler, et ce qui s'est imposé à moi, c'est ce thème que je trouve dans une des paroles de Jésus ressuscité, et qui sera donc le thème général de ces journées. C'est au chapitre 26 de Matthieu, alors que nous trouvons les 11 disciples en Galilée, sur une montagne que Jésus leur avait désignée. Ils avaient rendez-vous avec Jésus. Il leur avait dit, avant sa mort, qu'il les reverrait en Galilée. Et après la crucifixion, après sa mise au tombeau, des femmes, tôt le matin, s'étaient rendues au sépulcre, comme vous le savez, pensant trouver le corps de leur bien-aimé Sauveur, de leur Seigneur, pour lequel elles avaient tout quitté. Si le sépulcre était vide, et les anges qui s'y trouvaient leur auront rappelé cette parole: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il vous précède en Galilée, comme il vous l'avait dit. De sorte que le rendez-vous n'était pas au sépulcre, mais en Galilée. Alors, nous voyons les disciples, sur le message de ces femmes, retourner en Galilée. Et c'est là que nous pensons qu'ils n'étaient pas seulement les 11, mais que nous trouvons un grand groupe de personnes en Galilée, ce groupe dont nous parle l'apôtre Paul dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, quand il énumère les différentes rencontres du ressuscité. Il ne cite pas seulement celle de Jérusalem ou celle d'Emmaüs, mais il parle de 500 personnes qui l'ont vu ressusciter, et l'on pense que c'est en Galilée qu'il y a eu ce rassemblement de 500 personnes sur cette montagne avec les 11, parce qu'on ne les voit pas du tout à Jérusalem, où on venait de crucifier le Seigneur et où l'on avait payé les gardiens du tombeau pour dire que ses disciples avaient enlevé son corps. De sorte que c'est devant ce public-là que Jésus a parlé. Et il est dit que, au verset 17, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns doutèrent. Quelques-uns étaient un peu semblables à Thomas. Mais Thomas ne doutait plus, lui, certainement, en Galilée, car il l'avait vu à Jérusalem dans la chambre haute, et ayant manqué la première visite du ressuscité, il avait entendu le témoignage de ses autres disciples qui lui avaient dit: nous avons vu le Seigneur. Vous savez ce que Thomas avait dit, qu'il ne le croirait que s'il avait la possibilité de mettre le doigt dans l'empreinte de ses trous, que les clous avaient percé dans ses mains, et de mettre sa main dans son côté heurté. Et 8 jours après, Thomas s'était trouvé de nouveau à Jérusalem avec les disciples, et Jésus, à nouveau, s'était manifesté. Et la première chose qu'il avait dit, « Viens ici, Thomas !» Donc, vous voyez, le Seigneur entend toutes nos paroles, et il les enregistre. Vous avez des doutes au sujet de sa résurrection ? Viens ici, Thomas. Mets tes doigts dans l'empreinte de mes clous et ta main dans mon côté. Et Thomas s'était effondré en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, Thomas avait cru parce qu'il avait vu. Et vous vous souvenez de la parole de Jésus, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont. Mais dans ce grand nombre de personnes, comme on le pense, qui se trouvaient quand même rassemblées par le témoignage des disciples en Galilée pour y rencontrer le Seigneur, qui leur avait donné rendez-vous sur une certaine montagne, il y en a qui ont douté. Et c'est ce que nous lisons au verset 17, parce que je veux laisser le texte dans son contexte. Quand ils le virent, donc toute cette foule, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Tous n'avaient pas été dans la chambre haute comme les disciples, avec les femmes et avec Marie, la mère bénie de notre Seigneur, pour le voir ou entendre Jésus parler à Thomas. Alors quelques-uns doutèrent. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, on peut traduire aussi toute autorité ou encore toute puissance, c'est le même mot, toute puissance, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, ce thème qui m'a été imposé vient de cette parole du Christ ressuscité. J'aime beaucoup m'en tenir uniquement à la parole pour annoncer un message. Et il vous restera cette parole. Qui l'a prononcée ? Le Christ ressuscité. Le Christ victorieux de tout. Victorieux de quoi ? Eh bien, victorieux en particulier de la mort. Mais victorieux aussi du péché. Victorieux du monde et surtout victorieux de celui qui a introduit le péché dans le monde, victorieux de celui qui avait reçu le pouvoir de la mort, hein, puisque c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Et qui fut l'instigateur du péché? Qui est l'instigateur du péché? Du mal, c'est Satan. Eh bien, nous avons dans cette parole de Jésus l'affirmation de sa victoire sur tous les ennemis. C'est Satan, premièrement. Satan est un ennemi vaincu par Jésus. Mais il s'agit que nous aussi, à notre tour, si nous sommes disciples de Jésus, nous soyons vainqueurs de Satan, et non plus ses esclaves. Or, aujourd'hui, en cette fin de l'ère dite chrétienne, puisqu'on parle déjà d'une ère post-chrétienne, eh bien, nous sommes heureux de pouvoir saluer en Jésus celui qui est vainqueur de Satan, et qui aura envers et contre tout le dernier mot. Et si lui est vainqueur de Satan, ceux qui lui appartiennent par la victoire du Christ doivent aussi devenir des vainqueurs et ne plus être toujours dans la crainte ou dans l'asservissement de Satan, disant qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est une puissance contre laquelle on ne peut pas lutter. Cette grande puissance, ce
que nous ne nions pas la puissance de Satan. Elle a été vaincue. Et comme croyants, nous devons, dans ces derniers jours, être les témoins de la victoire de Satan. Et proclamer qu'en Jésus, nous sommes, nous aussi, plus de vainqueurs. Oui, par celui qui nous a tant aimés. Et c'est particulièrement ce thème-là, ce sujet-là, que nous allons prester avec vous à l'aide de l'Esprit ce soir. Demain, nous parlerons, demain après-midi, de Jésus qui n'a pas seulement vaincu Satan, mais qui a vaincu la maladie et qui est appelé dans un chapitre de Job le premier-né de la mort. C'est une expression assez frappante. Le premier-né de la mort, la maladie. Et nous verrons comment Jésus a triomphé lorsqu'il était sur la terre de toutes les maladies, tous ceux qui étaient malades et qui se sont présentés devant lui ont pu connaître la puissance de Satan, puissance de guérison. Je sais que dans cette fin d'économie, dans cette fin des siècles, beaucoup parlent de guérison. Eh bien, nous voudrions montrer comment Jésus a guéri et nous éloigner de tout ce qui n'est que contrefaçon ou qui jette les âmes dans le désarroi, dans le désespoir, après qu'on leur eut fait croire qu'ils étaient guéris. Et ils ne guérissent pas, et ils meurent souvent dans la révolte, et on dit simplement qu'ils n'avaient pas la foi, que c'est de leur faute, qu'ils n'ont pas eu la foi pour être guéris. Eh bien, nous aborderons ce sujet qui est extrêmement délicat demain après-midi, si nous pouvons nous réunir à 2 heures. Puis, nous verrons alors Jésus vainqueur de la mort, en suivant simplement l'enseignement des Écritures. Nous sommes tous candidats à la mort, n'est-ce pas? Que nous soyons jeunes ou que nous soyons âgés, tôt ou tard, la pensée de la mort s'impose à nous, et il est dit dans l'Écriture qu'à cause de la crainte de la mort, pendant toute leur vie, les hommes sont tenus dans la servitude. Eh bien, oui, je sais que je vais mourir, mais je n'attends pas la mort d'abord. J'attends Jésus, j'attends son retour, j'attends sa venue, car nous savons qu'il y a une génération qui entrera dans la gloire sans avoir à passer par la mort. Et tant que nous sommes en vie, si nous appartenons au Seigneur, nous pouvons penser et espérer faire partie de cette génération qui, subitement, en un instant, soudainement, eh bien, sera enlevé de la terre sans aller au Cap Canaveral pour partir dans une navette spatiale, mais sera enlevé de la terre pour s'en aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, non pas pour y flotter comme le font les cosmonautes, mais revêtus d'un corps de gloire, nous pouvons aller plus loin, c'est-à-dire connaître ce chemin que Gagarine, le cosmonaute soviétique, n'est plus, n'avait pas connu, le chemin de la maison du Père. Il avait dit qu'il avait été là, dans l'espace, mais qu'il n'avait vu Dieu. Il n'avait pas rencontré Dieu. Dieu n'était pas là, disait-il. Il ne savait pas le chemin de la maison du Père. Et la technologie de la Terre n'a pas encore pu trouver ce qui arrache à la pesanteur. On a la loi de la pesanteur, oui, on l'a vaincue, mais on arrive à la pesanteur, on reste là à flotter, hein, mais on n'arrive pas aux cieux des cieux où se trouve le Père qui nous attend et où Jésus nous a préparé une place que nous allons occuper bientôt, et cela d'un moment à l'autre. Quelle chose merveilleuse, quelle espérance est dans nos cœurs. Oui, Jésus est vainqueur de la mort. Et si même nous devions mourir avant sa venue, eh bien, nous n'avons plus de frayeur. Mais je suis à retravailler par cette pensée qu'on n'a pas assez parlé aux chrétiens des choses invisibles, de ce qui concerne la maison du Père, notre vrai chez nous, là où nous allons, même si nous devons passer par la mort. L'apôtre Paul, lui, aimait en parler. Et lorsque, après avoir attendu le retour du Seigneur, il s'est rendu compte qu'il devrait passer par la mort et la mort du martyr, eh bien, il ne disait pas qu'il était découragé à cause de cela. Mais au contraire, il pouvait dire, vous savez, être auprès de Christ, cela est de beaucoup de meilleur. Absent du corps, oui, le corps ira au cimetière, on le sait bien, le nôtre aussi, mais absent du corps, je ne suis pas enterré avec mon corps, j'ai quitté mon corps, absent du corps, présent avec le Seigneur. Et ça, c'est une part bien meilleure. Évidemment, ce sont ceux qui restent et qui souffrent de la séparation. Mais nous-mêmes, chers amis, quand la mort s'impose à nous, que nous pensons devoir quitter ce monde, nous ne devrions pas être terrorisés, nous devrions être remplis de ce que j'appelle le troisième bonheur. Le premier bonheur d'un chrétien, c'est de savoir que ses péchés sont pardonnés. Le deuxième bonheur du chrétien, c'est de savoir que dans la marche, nous avons communion avec le Seigneur et que toute chose coopère ou travaille au bien de ce qui aime Dieu. Nous avons une assurance pleine et entière malgré les difficultés, malgré les épreuves. Nous savons que rien n'est contre nous, que tout travaille pour notre bien, non seulement pour notre bien, mais que par nos épreuves, le Seigneur est en train de travailler pour ceux que nous aimons, comme ce fut le cas de Joseph, qui à la fin de ses épreuves peut dire à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Alors quand on voit nos propres épreuves sous cet angle, on les accepte, y compris pour que nos bien-aimés, s'ils ne sont pas encore au Seigneur, viennent au Seigneur. Puis peut-être c'est par certaines épreuves que nous devons traverser en ayant un rayonnement et non pas des murmures, en ne nous plaignant pas. Bien, c'est tout un témoignage qui peut parler au cœur des inconvertis de nos propres familles. L'autre jour, une personne me téléphonait en me disant, nous avons persécuté, moi et ma famille, une personne, notre sœur, et fille de mes parents, qui s'était donnée au Seigneur il y a 3 ans ou 4 ans, au camp Mahanaïm, là, à Cedar Lodge. Et nous avons pensé qu'elle avait changé de religion et nous l'avons persécutée. Nous lui en avons fait voir de toutes les couleurs. Mais aujourd'hui, me dit-elle, je suis obligée de vous dire que ma sœur, elle a changé de vie et non pas de religion. Et nous sommes tous convaincus maintenant qu'elle a changé de vie. C'est elle qui m'a donné votre adresse. Parce qu'elle-même se trouvait dans une grande détresse. Eh bien, vous voyez ce que c'est. Une fois que la vie de Dieu est réellement rendue manifeste dans une âme, on se rend compte, même les opposants se rendent compte qu'il y a une transformation. Et c'est pourquoi nous n'aimons pas les conversions au rabais. Nous n'aimons pas ces conversions faciles, ces conversions que j'appelle les conversions niaka, hein, niaka. Il y a qu'à croire, puis voilà, vous y êtes, vous souvenez, puis voilà, ben, on vous donne votre diplôme de converti. Attention, Jésus ne se signait pas à tous ceux qui prenaient simplement une décision, parce que cette décision, elle peut être très charnelle. Hein. Je ne dis pas que toutes sont charnelles, mais nous ne devons pas manipuler les foules. Il faut que ce soit le travail de Dieu dans une âme. Sinon, la doctrine de la perte du salut s'implantera dans vos milieux comme explication de tous ceux qui ont abandonné après avoir confessé Jésus-Christ. Parce qu'on a voulu des conversions faciles, alors maintenant, pour expliquer tout ce déchet, il faut bien qu'on ait une autre doctrine, la doctrine de la perte du salut, qui fait son chemin dans bien des milieux évangéliques. Alors, frères et sœurs, responsables de vos âmes devant Dieu, nous devons vous apporter la sainte parole de Dieu. Je voudrais que ce soir déjà, vos yeux se fixent vers l'invisible et que dans votre marche, depuis le premier bonheur, qui est le pardon du péché, vous puissiez vivre le deuxième bonheur. Le bonheur dans la marche. Vous connaissez le psaume 23. Le psaume 23 qui se termine. Voici le bonheur et la grâce m'accompagneront quand tous les jours de ma vie. Vous le chantez, ce verset, hein. Mais c'est tellement facile de chanter des cantiques. Voilà, on s'exalte, on part en fusée et puis on se désintègre après. On n'arrive pas à placer sur son orbite et on tombe sans parachute. Alors, c'est vraiment misérable. Hein. Eh bien, nous voulons plus, nous vous aimons assez pour vous dire ces vérités. Je ne connais personne, je ne connais personne selon la chair, je ne veux connaître personne, de sorte que je ne vise personne. Je vous aime, mais je vous présente la parole de Dieu. Et qui doit trouver le chemin de nos cœurs. Et si c'est la parole de Dieu, vous devez vous sentir ce soir concerné par elle. Dire, bien, c'était pour moi. Il y a quelque chose qui était pour moi. C'est toujours ce que la parole, quand elle est donnée d'en haut, quand elle est donnée dans la dépendance du Saint-Esprit, opère. Elle vous édifie, c'est-à-dire elle vous construit, elle vous bâtit. Elle ne vous démolit pas, mais elle vous bâtit. La parole édifie. Elle vous exhorte, elle vous sort de la torpeur, elle vous sort de votre sommeil, peut-être spirituel. Nous avons besoin d'être stimulés, d'être réveillés, car les jours sont mauvais et nous devons savoir en quel temps nous sommes. Nous sommes dans les derniers jours. Et une troisième chose que la parole peut faire, et que vous pouvez reconnaître qu'elle vient de Dieu, c'est que cette parole vous console. Elle édifie, elle exhorte, et elle console. Vous devez pouvoir recevoir de ce message une consolation, parce que nous sommes dans un monde où l'on pleure, dans un monde où il y a d'affreuses tristesses, où l'on apprend toutes sortes de mauvaises nouvelles, et nous avons besoin de ne pas perdre pied, nous avons besoin d'être consoler. Eh bien, je voudrais que non seulement vous ayez le premier bonheur, le deuxième bonheur, le bonheur dans la marche tous les jours de votre vie, mais que vous arriviez au troisième bonheur, le grand départ. Le grand départ. Non pas parce que vous écoutez les pompes funèbres qui font de la réclame pour la vie après la vie, hein, afin que vous fassiez vos préarrangements pour que votre famille soit délivrée de ces pensées, de ces soucis, d'ensevelissement, d'enterrement ou de crémation, que sais-je encore. Alors on vous parle maintenant de la vie après la vie. Il faut penser à la vie après la vie. Vous savez comment tout est devenu affaire de commerce, eh bien, nous ne vous présentons pas cela comme ça, mais nous savons qu'il y a, que tout n'est pas fini par la mort, mais que quand le corps repose dans la poussière, l'esprit est déjà dans la communion du Seigneur. Ce n'est pas encore la gloire. Ils ne doivent pas arriver, nos bien-aimés, à la perfection comme nous. Ils ne seront glorifiés qu'à la venue du Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, n'est-ce pas? Et avec les morts ressuscités, nous autres vivants transmués, transformés, nous nous en irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec le Seigneur. Et c'est lui qui nous conduira dans cette maison du Père, où il est allé nous préparer une place, de sorte que vous pouvez me prendre la place sur la terre, personne ne peut prendre ma place qu'il a préparée. Personne ne peut vous prendre votre place. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir des luttes sur la terre contre le sang et la chair. Que voulez-vous? La place qu'on a donnée à mon Seigneur, elle était où? Dans une crèche pour commencer et pour terminer à la croix. Et je voudrais te prêter mieux que mon maître. Je voudrais te prêter mieux que mon maître. Ma place sur la terre où Jésus a été crucifié, c'est d'être crucifié avec lui. Ma place, elle est à la croix, et d'être bien cloué. Ma place, elle est dans le tombeau, avec lui, identifié au Christ dans sa mort. Vous avez été baptisé, et même par immersion. Alors, souvenez-vous de votre baptême. Vivez actuellement cette mort, pour que la vie aussi de Jésus puisse se manifester dans votre chair mortelle. Et alors, au-delà des ombres de la mort, il y a la cité céleste, il y a les choses célestes, les choses invisibles, qui devraient occuper davantage nos esprits. C'était un des thèmes de nos réunions dont a parlé Wilfred à Châteauguay. Notre vie, elle est cachée dans le Christ, en Dieu, de sorte que nous devrions penser aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devrions nous familiariser avec les aimables demeures de la maison du Père, de sorte que si on vient nous dire subitement qu'il n'y a plus que quelques heures entre nous et la mort, eh bien, ça ne devrait pas nous plonger dans la terreur. Je pense à John et Betty Stamm, ces missionnaires dont la Chine, où ma femme est née et a été élevée, où mes beaux-parents ont vécu 40 ans. Eh bien, quand on est venu leur dire qu'on allait leur couper la tête le lendemain matin, qu'est-ce que ces deux missionnaires ont fait? Ils se sont lamentés? Non, ils se sont occupés de leur petite fille. Ils l'ont cachée et ils ont prié pour elle. Et elle vit encore maintenant. Et puis, le matin, ils ont fait leur coup au bourreau, leur tête à rouler. Mais ce n'était pas une catastrophe. Ils sont partis dans la joie. Quand on a poursuivi ma belle-mère, qui est morte à 94 ans aussi à Montréal, et que les Japonais voulaient lui couper la tête, et qu'on lui demandait, elle a été délivrée au dernier moment, on lui demandait, je l'ai dit souvent, mais vous n'aviez pas peur? Mais qu'est-ce qu'il pouvait me faire? C'était m'envoyer vers mon sauveur. Vous comprenez, c'est ça qui est merveilleux, quelqu'un qui vit avec le Seigneur, se réjouit d'être avec lui, et qu'est-ce qui nous empêche d'être encore avec lui, en esprit du moins? Bien, c'est nos corps de chair, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas entrer avec nos corps de chair. Alors, je dis, mais tout ce qu'il pouvait me faire, c'est de m'envoyer vers le Seigneur. Et vous voyez, elle n'avait pas des doctrines, mais c'est cela que je voudrais. N'ayez pas seulement des doctrines exactes, des doctrines orthodoxes. Ça ne vous aidera pas au dernier moment. Il faut que vous soyez en relation avec une personne et que pour vous le salut soit quelqu'un qui vous a habite maintenant par le Saint-Esprit, mais quelqu'un que vous verrez bientôt dans la gloire. Et en le contemplant, en étant affectionné aux choses qui sont en haut, eh bien, toutes les choses de la terre, ces mauvaises nouvelles que vous entendez à la radio, à la télévision, qui vous amènent la dépression, toutes ces choses disparaissent parce que vous avez parlé avec lui, parce que vous l'avez contemplé, et sans le vouloir, parce que vous avez parlé avec lui, votre visage en devient rayonnant, comme celui de Moïse. Moïse, son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui, mais lui ne le savait pas que son visage rayonnait. Il y a une complète dépréoccupation de soi quand on est occupé du Seigneur. Occupé du Seigneur, on ne s'occupe plus de nous-mêmes, de la forme de notre nez, de la couleur de nos yeux, de nos cheveux, qu'on n'a pas accepté notre grandeur, notre petitesse, voilà, on est né comme cela, mais quand vous avez le Seigneur, tout est beau en lui, tout est grand en lui, et en le contemplant, eh bien, vous recevez quelque chose. Beauté. Et en l'écoutant, sa bonté aussi vous pénètre. Et l'on peut dire combien grande est sa beauté. Combien grande est sa bonté. Eh bien, nous parlerons plus tard, donc demain soir, avec plus de détails de cette question de la mort. Et finalement, si nous arrivons à dimanche matin, nous vous parlerons de Jésus, vainqueur du monde, hein, parce que nous sommes encore dans le monde. Tout en n'étant plus du monde, nous nous trouvons encore dans le monde. Et nous avons affaire avec les choses de la terre. Mais comme je le répète souvent aux âmes, un chrétien authentique, c'est un homme qui a la tête sur les épaules, les pieds sur la terre, c'est un réaliste, hein, il voit les choses. On ne se bat pas, on est là dans le monde. On marche dans le monde. Mais notre cœur, il est où? Dans le ciel, hein. C'est un homme qui a son cœur dans le ciel, mais sa tête sur les épaules et ses pieds sur la terre. Mais son cœur, c'est-à-dire ses affections, étant des affections célestes, eh bien, il amène quelque chose de céleste dans cet environnement empoisonné que nous souffrons par la venue du Seigneur ou par notre mort, car la définition la plus exacte de la mort, c'est la séparation de notre environnement. Et il y en a tellement qui souffrent de cet environnement, et spécialement ceux au Québec, qui se suicident. Il n'est pas question de se suicider. Il est question d'être déjà mort spirituellement à cet environnement pour vivre au sein même de cet environnement avec les grâces d'en haut en manifestant le fruit de l'esprit. Alors, vous voyez que c'est parole, toute autorité, c'est-à-dire toute puissance, m'a été donnée, tout pouvoir dans le ciel où nous allons et sur la terre où nous vivons. Sur la terre où nous vivons, l'autorité est à qui? À un parti politique? Non, elle est au Seigneur, qui est au-dessus de tous ces partis. Notre politique, c'est de prier pour ceux qui nous gouvernent, quelle que soit leur couleur. Nous avons une tâche, c'est de prier pour ceux qui nous gouvernent. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit donnée de Dieu. Elle nous est donnée de Dieu parce que s'il n'y avait pas d'autorité, qu'est-ce que ce serait? L'anarchie. Et quand on ne veut plus d'autorité, emmène le pays vers l'anarchie, et qu'est-ce qui suit l'anarchie? C'est la dictature. Et vous deviendrez des esclaves. À force de vouloir toutes les libertés possibles, bien finalement, il y a un moment où ça ne va plus, et on se rend compte qu'il faut une main de fer. Et vous savez, cette main de fer, elle se prépare, elle vient bientôt, mais ce sera la main de qui? De l'Antichrist. Puisque nous n'avons pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés sous le joug doux de l'homme humble de cœur, sous son fardeau léger, eh bien, il se prépare pour le monde le joug dur et cruel de l'homme de péché qui réussira d'abord de séduire les nations qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés et qui imposera son règne de terreur par la puissance que lui donnera Satan. Ah, mes amis, il faut savoir en quel temps nous sommes. Mais j'en arrive donc à vous répéter une fois encore, ce pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans ta prière avant la croix, vous connaissez cette merveilleuse prière du chapitre 17 de Jean, où vous voyez Jésus épancher son cœur dans le sein du Père. Ce ne sont pas des doctrines dont il parle, ce n'est pas un enseignement qu'il donne, mais on a la vision de Jésus en Gethsémané, probablement, enfin, en plein air, il a quitté la salle où il a institué la Sainte Cène, le mémorial de ses souffrances, et il prie. Cette prière qu'on a appelée la prière sacerdotale, et dans cette prière donc, qui précédait la croix, il dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, ou autorité sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Merci. C'est merveilleux, il avait donc tout pouvoir, toute autorité, et cette autorité, ce pouvoir, il l'avait reçu du Seigneur, de son Père. Il avait tout pouvoir avant même de mourir sur la croix et d'être ressuscité, Dieu donnant à connaître par la résurrection de son Fils toute la puissance qui se trouvait en son Fils. Et cette puissance qui a ressuscité Jésus, c'est la même qui est mise à notre disposition pour nous faire vivre la vie chrétienne. C'est quelque chose. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui a sorti Jésus d'entre les morts, Éphésiens chapitre 1, il nous est déclaré que c'est la même puissance qui nous régénère et qui peut nous faire tenir, comme vous le dites souvent au Québec, debout. Hein? Il faut que nous soyons des gens qui se tiennent debout. Mais comment est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Pas par vos propres forces. La chair est faible. Jésus lui-même l'a dit. Vous pouvez vous tenir debout par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ en ses morts. Mais emparez-vous de cette puissance. Que cette puissance devienne la vôtre. Et même si vous devez mourir, réjouissez-vous, vous savez où vous allez. Je l'ai souvent fait remarquer, quand vous allez partir en voyage, dans un pays que vous ne connaissez pas, vous vous documentez sur ce pays pour savoir ce qui s'y passe, ce qu'il y a à voir et à visiter. Et puis nous désintéressons de ce séjour éternel où nous allons passer l'éternité. Ce serait bien le moment que nous soyons un peu familiers avec les choses célestes. Alors nous n'aurions plus peur de la mort. Hier soir, tard dans la nuit, je recevais un téléphone d'Italie où un ami me disait « Frère Racine, priez, ma femme meurt à côté de moi d'un cancer foudroyant. » Il me recevait régulièrement chez eux à Turin quand je vais là-bas pour faire des missions, ça m'arrive presque chaque année. Et puis voilà qu'elle meurt, alors que ça l'est-il ici. Eh bien, je pouvais lui dire ici qu'elle va avoir la part la meilleure. C'est lui qui, évidemment, était désolé de voir sa femme le quitter. Mais c'est là que nous autres chrétiens, nous devons savoir montrer notre amour. Est-ce que tu l'aimes, ta femme? Eh bien, elle est prête. Elle est appelée à apparaître devant le Seigneur. Eh bien, sois à ses côtés, même en marchant par la vallée de l'ombre de la mort. Montre-lui le ciel, comme cet homme qui me disait, deux jours avant de mourir, nous allions au culte à Montréal, les deux, il avait 72 ans, puis il me dit, Gaston, on était, il conduisait la voiture, il me conduisait lui-même, parle-moi de la cité d'or. Et qu'est-ce que je peux dire, la cité d'or? Est-ce que j'y suis allé? Je savais de quoi il parlait. Il parlait des éléments de l'Apocalypse. Mais moi, est-ce que je savais quelque chose sur ces éléments de l'Apocalypse? Est-ce que j'y avais médité? Est-ce que j'avais songé à tout ce qui nous attend à cette cité d'or? Je lui en ai parlé du cœur, comme ça, sans préparation. Et puis, deux jours après, il y était. Alors, c'était comme un pressentiment. Parle-moi de la cité d'or. Ce n'est pas une catastrophe, c'est aller vers le Seigneur. Mais bien sûr, il y a ça. Alors, Jésus, vainqueur de ça. Vous me direz, vous avez mis bien du temps pour arriver à votre sujet de ce soir. Je ne vais pas prolonger jusqu'à minuit, personne n'est passé sur le bord de la fenêtre, il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas l'accident de Tich, mais je voudrais quand même répondre à certaines de vos questions. Qui est Satan? Et comment peut-on dire que Jésus est vraiment vainqueur de Satan? Où voyons-nous Satan pour la première fois? Dans la Genèse, sous la forme d'un serpent. Et c'est lui qui est venu tenter le premier couple humain dont nous descendons tous, Adam et Ève. Maintenant, quand il y a des personnes qui viennent nous dire « Oui, ben c'est à cause de la femme que le péché est dans le monde. » Non, c'est à cause de l'homme, car il y a un redressement qui est donné par l'apôtre Paul, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Qui est cet homme? C'est Adam. Qui aurait dû être le chef et non pas se soumettre à Ève qui s'était laissée aller dans sa conversation avec ce beau serpent, cet animal rusé aux couleurs chatoyant, on pense même qu'il avait des ailes à ce moment-là, comme on en a retrouvé certains vestiges dans le corps du serpent, mais que la malédiction de Dieu sur le serpent a enlevé cela de sorte qu'il rampe maintenant sur la terre. Si le jugement de Dieu sur l'homme a été le travail pénible, sur la femme les douleurs de la grossesse, de l'enfantement sur Satan, le serpent qui incarnait Satan, eh bien, il rampe maintenant sur le sol. Il ne peut plus attirer ainsi et tromper par sa beauté. Mais voilà, je ne vais pas vous faire tout un cours sur le diable, mais vous le connaissez. Dans la Genèse, il apparaît sous la forme du serpent. Et dans l'Apocalypse, dans le chapitre 11, dans le chapitre 12, il est parlé du serpent ancien. Donc ce serpent ancien, c'est bien le diable, n'est-ce pas? Et à travers toute la Bible, il est parlé du diable, de Satan, l'adversaire de Dieu, celui qui s'oppose à Dieu et qui a détourné l'homme de sa vocation première. Et quand on se pose, nous, beaucoup de questions au sujet de l'origine du mal, il y a pour moi un verset qui me suffit pleinement et qui me donne une réponse parfaitement satisfaisante. Du mal. Dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, il nous dit ceci. Verset 43, il parle aux Juifs. Écoutez la parole. Vous avez pour père qui? Est-ce qu'il y en a? Dans cette salle? Je ne sais pas. C'était à des gens religieux que Jésus s'attaquait. Hein? C'était à des gens religieux, c'était à des parisiens, à des juifs. Vous avez pour père le diable. Eux disaient, notre père, c'est Abraham. Jésus leur disait, non, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc le diable a des désirs. Hein? Puis voudrait que nous accomplissions quoi? Ses désirs. Et qu'est-ce que Dieu voudrait, lui? Que nous accomplissions sa volonté. Comme je le dis souvent, quand vous faites la volonté de Dieu, si vous me permettez le jeu de mots, ça devient une fête, avec un circonflexe. Quand on accepte de faire la volonté de Dieu, quand on dit que sa volonté soit faite, F-A-I-T-E, eh bien ça devient une fête, F-E, circonflexe, T-E, parce que cette volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Souvenez-vous de cela. N'ayez pas peur de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qui peut vous arriver de meilleur. Que ta volonté soit faite. Et Jésus nous en a donné l'exemple. Quand il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, il a pu se relever et traverser. Et à ce moment, où Pilate lui dit, mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te libérer? Qu'est-ce que Jésus répond? C'est moi qui ai l'autorité? Non, pourtant il a toute l'autorité. Mais il dit, tu n'aurais aucun pouvoir, donc aucune autorité sur moi si cela ne t'était donné d'en haut par moi. Donc, il s'est soumis. Il n'a pas fait valoir ce qu'il était. Il était Jésus qui avait pris notre corps de chair et qui se soumettait à la volonté des hommes. Il ne les a pas écrasés. Il aurait pu retirer le souffle de cela. Il n'a pas fait. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. Et vous voyez, pourtant, toute autorité lui avait été donnée. Elle lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Mais nous ne devons pas l'heure où il doit accomplir la volonté du Père en devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Alors, notre Seigneur nous déclare dans le chapitre 8 de Jean, où est la source du mal? Et je vous disais que cela me suffit pleinement. Et j'espère que ça vous suffira aussi. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Et l'apôtre Jean, qui a rédigé cet évangile, nous dit aussi dans sa première épître, cette parole, verset 8 du chapitre 3, « Celui qui pêche est du diable ». Car le diable pêche depuis quand? Dès le commencement. Vous voyez comme ça se tient. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, ayons affaire avec le Fils de Dieu. Et nous saurons comment les œuvres du diable peuvent être détruites. Et quand les a-t-il détruites? Où a-t-il triomphé de Satan et de toutes les puissances qui l'entourent? Colossiens chapitre 2, pour vous donner juste quelques faits bibliques, vous certifiant que je ne vous enseigne pas mes propres pensées, il est dit au chapitre 2 des Colossiens, verset 13, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et il vous a rendu à la vie, donc Dieu vous a rendu à la vie avec lui, avec Jésus, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Où est le triomphe de Jésus sur Satan? À la croix. C'est par sa mort qu'il est entré dans le royaume de la mort qui avait été donné à Satan, qu'il a lié l'homme fort, comme il l'avait prédit dans l'Évangile, et qu'il a pillé ses biens, de sorte que Satan est vraiment un ennemi vaincu. Et alors, en revenant à cette origine du mal que Jésus nous montre dans le cœur de cet être, Satan, eh bien, je vais vous rappeler certainement quelques vérités que vous connaissez. Satan n'a pas été créé Satan. Satan était un ange de lumière dans la première création de Dieu. Car vous voyez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et d'autres versets nous disent que Dieu n'a pas créé les cieux et la terre pour être vide. Lisez Ésaïe 45. Et vous verrez que vraiment, en ce verset 1 de la Genèse et le verset 2 où il est dit « Et la terre était désolation et vide, et les ténèbres étaient sur la face des eaux », on se dit « Mais ce n'est pas Dieu qui a pu créer cet état chaotique, ce tohu-bohu que vous trouvez dans le verset 2 ». Alors, que s'est-il passé entre le verset 1 et le verset 2? Toute la Bible ne nous le dit pas. Mais enfin, elle nous donne assez de signes pour que nous comprenions que Dieu ne crée pas le chaos et le désordre. De sorte que l'on peut penser par d'autres textes bibliques que je ne fais que citer, Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28, Satan était le chef des anges. de ces anges dont Job nous parle, ou plutôt le livre de Job, puisque c'est Dieu qui le dit, que les anges, les étoiles du matin chantaient de joie quand Dieu créait les cieux et la terre. Les cieux étaient l'habitation des êtres célestes, mais la terre aussi avait été créée dans un but spécial que Dieu avait déterminé de toute éternité, mais qui était pour l'instant gouverné par le chérubin, ouin, le chérubin protecteur, que nous croyons être Lucifer, Satan, le chef des anges, avant la chute. Le mal n'existait pas. Le mal n'est pas éternel. Nous nous opposons à cette pensée-là. Le mal n'était pas éternel, n'avait pas d'existence propre. Le mal n'était qu'une possibilité. Pour qu'il y ait mal, il fallait qu'il y ait opposition au bien. Satan n'était qu'une créature dépendante de Dieu. Il n'était pas encore Satan, il était Lucifer, le porteur de lumière qui devait glorifier Dieu. Mais voilà que le dessein de Dieu n'était pas de donner à Lucifer la première place. Les anges étaient des esprits administrateurs qui étaient créés en vue des hommes qui devaient hériter du salut. Et quelle était la pensée de Dieu pour l'homme? La pensée éternelle de Dieu, c'était de créer un être au bonheur duquel il allait travailler, et qui était l'homme. Et cet homme, il le prédestinait à être semblable à qui? À l'image de son fils, qui est supérieur aux anges. De sorte que Lucifer pouvait apprendre qu'il allait paraître un être qui allait lui être supérieur, puisqu'il était prédestiné à être semblable au Fils de Dieu. Alors, ce que l'on peut penser, c'est que la révolte est entrée dans le cœur de l'ange dominateur et qui réglait tout ce qui se passait dans cette merveilleuse création de Dieu, et il a voulu s'opposer à Dieu, supplanter Dieu. C'est le diable, c'est ça, c'est Lucifer qui a donné l'origine au mal. Le mal est dans son cœur. Dès le commencement, il y a eu opposition de Lucifer au dessein de Dieu, et il a tout fait pour tout détruire, pour tout anéantir. Et il semble bien que la première création ait connu la destruction dans la révolte et la chute de l'ange. Et alors vous trouvez au chapitre 1er de la Genèse, dès le verset 3, au fond, une reconstitution de tout ce qui a été détruit, démoli à la chute de l'ange. Et vous pouvez mettre toutes les millions d'années que les savants veulent, ça nous est parfaitement égal, il n'y a pas de contradiction avec la parole. Mais depuis le verset 3, il y a une restauration de cette création, et le diable n'est pas arrivé à anéantir le plan de Dieu. Ce plan divin s'accomplira quand même. L'homme est créé, façonné de la terre, mais que va faire Satan, puisqu'il n'a pas été détruit, parce que Dieu, dans son dessein, ne voulait pas le détruire? Eh bien, il va essayer de s'opposer à Dieu en détournant l'homme de sa vocation véritable. C'était l'homme qui allait dominer sur la terre. Mais le diable s'insinue dans ce jardin de délices et de charme, et il séduit Ève, qui ajoute à la parole, comme vous le savez, et c'est la désobéissance. Et c'est la fuite. Et qu'est-ce que Satan a fait croire à ce premier couple? Il lui a fait croire ce qu'il a cru lui-même, qu'une créature pouvait être indépendante. Et l'indépendance n'est l'apanage d'aucune créature. L'homme est un être dépendant. Tant qu'il était dans la dépendance de Dieu, il avait tout. Il ne pouvait pas mourir, il était dans la lumière, il était dans la vérité, ses facultés intellectuelles étaient merveilleuses, puisque c'est lui qui a pu nommer tous les animaux de la terre sous le regard de Dieu. Donc, il avait une intelligence extraordinaire. Mais, voilà, cette désobéissance a coupé le contact avec Dieu, et l'homme est retombé sur lui-même. Il n'est devenu que chair. Genèse, chapitre 6. L'homme n'est plus que chair. Avant, esprit, âme et corps, l'esprit illuminé par Dieu était la lampe du Seigneur qui éclairait son âme, son intelligence, sa volonté, ses désirs. Tout était éclairé par en haut, et le corps, dans tout cela, était le serviteur. Et hélas, maintenant, tout est changé. C'est le corps qui est devenu le maître, hein, et on le voit aujourd'hui. Hein. Les sens qui habitent le corps dominent l'homme. Il est esclave de ses sens. Son intelligence, sa volonté, toutes ses capacités intellectuelles, au lieu de les employer pour le bien, il les emploie pour le mal, pour la destruction. Et puis, l'esprit dans tout cela, ben, il est mort. Spirituellement mort, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il est mort, coupé de Dieu. Alors, Satan est arrivé, il est arrivé à cela, n'est-ce pas, à séparer l'homme de cette direction de Dieu, et l'homme a choisi le chemin de la désobéissance, de la connaissance du bien et du mal, mais indépendamment de Dieu. Il a voulu devenir comme Dieu, mais au fond c'était le plan de Dieu, il voulait que l'homme devienne comme son fils. Mais il a voulu devenir comme le fils sans la dépendance de Dieu, par lui-même. Voilà l'origine du mal, dans le cœur de Satan que nous avons écouté. Et alors, Satan est devenu le prince de ce monde. L'homme voulant être indépendant a perdu quoi? Sa liberté. Avant, l'homme était libre. Maintenant, l'homme n'est plus libre. Jésus le dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. L'homme se croit libre, mais il n'est plus libre. Il est esclave de celui qui a dominé sur lui. Et qui est-ce qui domine maintenant sur les œuvres de la création? Toute la création est asservie. À qui? À celui qui l'a asservi, à Satan, à cause de la désobéissance du premier homme. Alors il y a une souffrance dans toute la création. Et vous pouvez voir maintenant cette lutte cosmique entre Satan et le dessein de Dieu.